Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Merci beaucoup de nous écouter. Je suis Sabrina Caron et je suis ici avec mon ami et collègue producteur laitier Jean-François Janel. Bonjour Jean-François, comment ça va?
Allô Sabrina, ça va super bien, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Toi, comment ça va?
Ça va bien, le printemps est arrivé, donc on a beaucoup de choses à préparer, à planifier, donc ça roule vite. Je crois que tu as eu une réunion du lait la semaine passée, toi, un AGA.
Oui, bien, en ce qui concerne le printemps, effectivement, là, les portes de garage commencent à s'ouvrir puis on commence à regarder dans les champs là, avec une certaine excitation. Tout dépendant d'où est-ce qu'on habite au Québec, il y a encore un petit peu de neige, je crois. Mais oui, aussi, il y a eu une assemblée générale annuelle qui a eu lieu là, dernièrement avec les producteurs de lait du Québec. On a eu la chance là, d'échanger avec beaucoup d'autres producteurs sur certaines résolutions. C'est clair que ce qu'on va parler aujourd'hui, le code, fait partie là, justement là, des discussions qu'on a avec d'autres producteurs là, dans les couloirs et corridors de ces assemblées.
Oui, c'est un sujet de discussion qui fait parfois monter la colère. D'autres fois, les gens disent « Ah oui, c'est correct. Puis c'est correct que les exigences. » Il y a plusieurs commentaires ou réactions au code.
Effectivement, les réactions sont multiples. Puis on entend beaucoup de commentaires, je pense, mais sur les réseaux sociaux. On dirait que les gens partagent beaucoup leur opinion. Puis il y en a que... Oui, je pense qu'ils ont raison, d'autres ont peut-être tort, mais que tout le monde émet son opinion. Mais je pense que justement aujourd'hui, avec l'épisode qu'on va enregistrer, ça va permettre de clarifier beaucoup de choses. Et justement, je ne sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, on en a fait un épisode avec Mme Nash qui concernait la révision du code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. C'est un code là, qui devait être publié justement pour le 30 mars 2023.
Oui, puis les producteurs avaient répondu, en tout cas les producteurs du Québec avaient répondu abondamment aux questions pour le code là, au niveau des commentaires qu'on pouvait envoyer. Donc, on avait eu une belle réponse. Je m'étais fait beaucoup parler de ce podcast, fait qu'aujourd'hui, on revient avec notre invitée qui est Clémence Nash, gestionnaire du volet bien-être et de proaction chez les producteurs laitiers du Canada.
Justement, vu qu'on parle d'un ancien épisode, si jamais vous voulez l'écouter, il est disponible sur entre2traites.ca.
Sans plus tarder, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui sur le code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Merci d'être à l'écoute dans Deux Traites.
En janvier 2019, les producteurs laitiers du Canada ont lancé une révision en utilisant le processus d'élaboration du Code du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. Comme je le disais, le processus est maintenant terminé et le nouveau code est disponible sur le site nfacc.ca.
Pour répondre à toutes nos questions sur le nouveau code, notre invitée aujourd'hui est Clémence Nash, gestionnaire de projet chez les producteurs laitiers du Canada. Clémence, merci de revenir nous jaser. De ça en deux traites.
Merci pour l'invitation.
Allô Clémence, bien content que tu sois là. On a beaucoup de questions, j'espère que tu as beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de matières, je crois, qu'on va pouvoir discuter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu rappeler à nos auditeurs, c'est quoi le code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers?
Oui, bien sûr. Donc, le code de pratique comprend des exigences et des recommandations en matière de bien-être des animaux, basées sur la recherche, sur les sciences. Elles sont pratiques pour les producteurs et adaptées aux attentes de parties prenantes concernant la gestion responsable du bien-être. Donc, on sait qu'il y a plusieurs intérêts envers le bien-être par nos consommateurs, par nos vétérinaires, par nos producteurs, bien sûr. Donc, ils essayent de rassembler tout ça dans un code. Avec plusieurs pratiques. Presque tous les secteurs d'élevage au Canada disposent d'un code et les industries s'attendent que les exigences soient respectées par leurs producteurs.
Puis, ça a été quoi le processus qui a mené à la publication du nouveau code? Ça a été long de mémoire. Peux-tu nous rappeler c'est quoi ce processus-là?
Donc, bien sûr, les codes de pratique sont élaborés suivant le processus développé par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. La rédaction et la révision des codes de pratique sont assurés par un comité de code composé de nombreux intervenants. Donc, il y a des producteurs, des vétérinaires, des transformateurs, des fonctionnaires, des chercheurs, des experts, des associations nationaux envers le bien-être. Mais bien sûr, après 2019, il y avait 2020. Et donc, il y avait une petite chose qui était appelée la pandémie qui s'est passée. Et bien sûr, ça a bouleversé le plan un petit peu. Donc, ça a ralenti les choses. Et c'est déjà un processus très long et détaillé, puisqu'on sait bien qu'il y a plusieurs sujets qui sont très sensibles. Et il faut avoir le support du comité en entier pour avancer avec les exigences qui sont les exigences finales. Donc, ça a pris du temps, mais le tout est basé sur la science. Et il y a aussi un comité scientifique qui supporte le processus en développant un rapport pour le comité de code qui résume la recherche faite sur chaque sujet de chaque exigence. Donc, c'est vraiment un processus long, détaillé, pour être sûr qu'à la fin, on a quelque chose qui peut durer longtemps.
Entre la version qui a été travaillée, mais avant la consultation publique, puis la version après la consultation publique avec les commentaires de multiples personnes, est-ce qu'il y a des différences qui ont été apportées sur la version finale?
Oui, il y a plus d'une cinquantaine d'exigences qui ont été proposées, qui ont été soit éliminées ou simplifiées. Donc, il y avait vraiment un impact important.
Donc, les commentaires des producteurs soumis pendant la période de consultation ont vraiment eu un impact?
Oui, et on est très reconnaissant des efforts par tout le monde pour qu'ils se soient fait entendus. Le comité de codes a utilisé ce commentaire pour vraiment soit supporter une exigence, soit ajuster une exigence pour être sûr que ça restera pratique et possible pour les producteurs. Mais qu'aussi, on n'oublie pas les attentes d'autres parties prenantes, comme les consommateurs, qui ont des intérêts eux aussi. Et au bout de la journée, on est là pour produire de la nourriture. Et donc, on veut que tout le monde soit content avec les résultats.
Le code, lui, a été publié le 30 mars 2023, mais il n'est pas en vigueur tout de suite. C'est quand que les nouvelles exigences du code de pratique entrent-elles en vigueur? Puis, est-ce que ça arrive tout en même temps?
Une question. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pour la première fois, appuyé par les commentaires reçus pendant la période de commentaires, le code applique une période de transition de 12 mois. Donc, c'est le premier code où on a 12 mois à appliquer les nouvelles exigences. La plupart des exigences entrent en vigueur donc le 1er avril 2024, sauf celles qui ont des dates carrément dans l'exigence. Donc, un exemple de ça, c'est par exemple pour le groupage de veau, cette exigence-là va venir en vigueur en 2031. Donc, ça donne beaucoup de temps pour permettre la transition.
OK, donc on a encore du temps pour s'adapter, se préparer, mais il nous reste plus de temps avant notre pause présentement. Clémence Nash reste avec nous pour passer à travers des principaux changements au code des pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Restez là, on vous revient après la pause.
Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne! Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète?
À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes.
Ah, c'est comme le cercle de la vie!
Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi?
Je suis partant.
C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050.
Et nous sommes de retour avec Clémence Nash, gestionnaire de projet chez Producteurs laitiers du Canada. Clémence, quels sont les changements les plus importants dans ce code de pratique par rapport à la version de 2009?
Je dirais qu'il y a trois sujets qui amènent beaucoup de questions. Donc, les trois sont le groupage de veaux dès 2031, la liberté de mouvement pour les vaches attachées dès 2027 ou dès 2024 pour les nouvelles constructions et le vélage en liberté dès 2029. Donc, ces sujets-là, il y a beaucoup de questions. C'est des changements qui auraient possiblement un impact sur certaines fermes et c'est là où c'est assez différent au code de 2009.
Est-ce que ça signifie que les étables à stabilisation entravées, je vais même le redire, les étables attachées, on ne peut plus en construire? Est-ce qu'on on se doit se débarrasser de celles qui existent? Est-ce qu'elles devront fermer?
Non, pas du tout. Je sais qu'il y a certaines publications qui disent que c'est la fin des stabilisations attachées, entravées, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il y a de nombreuses étables attachées qui ont trouvé des moyens efficaces à laisser sortir leurs vaches à certains stades de lactation, comme pendant la période de tarissement. Et certaines offrent même un accès régulier à un enclos intérieur ou extérieur. Je sais que Dr. Elsa Vasseur mène actuellement des recherches dans ce domaine spécifique à McGill et nous sommes vraiment impatients à voir les résultats de sa recherche, les impacts sur les vaches. Mais c'est très possible d'avoir une stabulation attachée, mais avec quelques modifications pour permettre le mouvement aux vaches.
Donc, si on embarque dans des grandes rénovations, que la rénovation d'une vieille étable répond à la définition d'une nouvelle construction?
Bonne question encore. Non, la rénovation d'une étable existante n'est pas considérée comme une nouvelle construction. Toutefois, et on a eu cette question, si vous construisez une nouvelle bâtisse juste à côté de votre étable actuelle ou existante et que vous le reliez ou la reliez avec un couloir, cette nouvelle bâtisse serait considérée comme une nouvelle construction, bien qu'il y ait un couloir qui est attaché d'eux. Donc, c'est vraiment des rénovations au site actuel. Ça ne compte pas comme nouvelle bâtisse. Si on construit une nouvelle bâtisse de la terre, hop, ça compte comme une nouvelle construction.
OK. Donc, si on attache une nouvelle bâtisse à une vieille, est-ce qu'il faut modifier la vieille pour être en stabulation libre aussi?
À ce point-ci, non. Ça serait considéré comme une construction actuelle ou existante. Mais la nouvelle bâtisse où il y a les vaches, ça faudrait gérer ça. Et ça, les détails spécifiques, ça va être à la province et potentiellement au comité de protection à décider où mettre les lignes. Mais pour l'instant, c'est assez général. Nouvelle construction, faut que elle s'aligne avec les exigences du code. Construction existante, il y a d'autres exigences qui donnent un peu plus de temps.
Je vais y aller d'une question un peu vraiment. Mettons qu'on est à côté au mur, puis qu'on n'est pas capable de le faire, que ce soit des raisons financières, espace, manque de relève, n'importe quoi. Mais l'entreprise, la ferme, ne peut pas faire les modifications et répondre à ces nouvelles exigences. Il arrive quoi?
Oui, bonne question. Donc, il y a quelques points à surligner ici. Le code, pour l'instant, n'est pas partie de Proaction. Donc, le code s'applique, les exigences qui s'appliquent en 2024 vont s'appliquer en 2024. Qu'est-ce qui va se passer si on ne suit pas le code? C'est qu'il y a la possibilité que le MAPAC, par exemple, utilise le code et les exigences du code pour déterminer si une ferme suit les exigences du bien-être ou pas. Donc, certaines provinces, et je pense que le Québec est inclus, ils ont le code comme partie de leur réglementation de bien-être. Donc, il faut suivre le code. Donc, c'est là où s'il y a une plainte sur une ferme envers le bien-être et que le MAPAC vient faire une investigation, c'est possible qu'il y aurait potentiellement des conséquences à ne pas suivre les exigences du code. Proaction, ça va venir plus tard, mais c'est là où il y aurait potentiellement des difficultés. Mais c'est aussi là où le comité a vraiment donné beaucoup de temps pour les exigences qui ont été identifiées comme ayant potentiellement des difficultés pour les producteurs à appliquer, pour qu'il y ait une période d'adaptation, qu'on apprend qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et qu'on a potentiellement le temps aussi de faire des recherches, comme la recherche de Dr. Vasseur, pour déterminer qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les conséquences positives, mais aussi potentiellement les conséquences négatives à faire un changement pour atteindre les exigences du code, mais qui n'ont pas nécessairement versé des résultats positifs pour les vaches. Et donc, il faut s'ajuster encore. Donc, le comité technique, le comité du code, ils ont vraiment essayé de garder ça en tête.
Donc, les exigences vont être intégrées au programme Proaction éventuellement. Si les producteurs ont des questionnements, dans le fond, comme un peu on vient de te poser, on les réfère au MAPAC à ce moment-là, aux intervenants à la ferme?
Pour répondre aux questions sur le code, je dirais que le meilleur endroit pour les producteurs, c'est d'aller soit à la province, soit au PLC, mais plutôt à la province. Donc, au Québec, c'est les PLQ, en Ontario, c'est DFO. Ils sont très alignés sur qu'est-ce qui est inclus dans le code et ils auront plus d'informations sur les détails de qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas et potentiellement auront des informations sur s'il y a des programmes financiers qui peuvent supporter les producteurs à faire des rénovations. Le MAPAC aurait aussi des informations, mais ça sera potentiellement un peu moins directement pratique. Et puisque les PLQ sont aussi participants du programme ProAction, bien sûr, il y aura des informations qui sont plus connectées. Donc, je dirais, si vous avez des questions, allez au PLQ ou au PLC et on essaierait de vous aider.
Parfait. Dans le code, il y a des exigences, mais il y a aussi des pratiques recommandées. Ça serait quoi la différence entre les deux?
Oui, bonne question. Donc, les exigences, c'est obligatoire. Okay? Donc, il faut au minimum faire ça. Les recommandations sont des recommandations. Ça se peut, et dans le passé du code de 2009, il y a eu certaines recommandations du code qui ont été utilisées comme exigences dans le programme ProAction, par exemple, parce qu'on a déterminé au comité technique que ça valait la peine d'avoir ces pratiques appliquées. Ça se peut que ça arrive encore aussi avec le code de 2023. Mais pour l'instant, les exigences sont ce qui sont le minimum. Les recommandations, c'est si vous voulez vraiment aller au niveau aussi haut que possible pour le bien-être de vos vaches, voici les recommandations qui sont idéales, qui sont plus ou moins supportées par la science. Donc, il y a certaines choses qui, on pense que ça serait une bonne chose, mais il n'y avait pas assez de science ou de recherche à déterminer que c'était sûr, que c'était vraiment basé sur la science. Donc, le comité a décidé de les donner comme recommandations et pas nécessairement comme exigences à ce point-ci. Et dans le prochain code, ça se peut que ça changera basé sur les recherches qui ont été faites depuis.
Le code, il couvre la totalité du pays. Donc, le Canada, c'est relativement très grand. Est-ce qu'il y a des applications au code différentes en fonction de la région, des traditions, la façon de faire, les cultures, ou c'est pareil pour tout le monde?
Oui, bonne question. Donc, le code couvre tout le monde. Mais les exigences sont construites d'une façon à être non prescriptif. Donc, ils essayent d'être assez général, permettant aux producteurs de trouver leur propre façon à les suivre. Le comité a vraiment essayé de baser les exigences sur le résultat et non pas comment d'y aller.
Pour les races de vaches, on sait qu'il y a des différences dans les formats, entre autres, là, si on compare la Holstein et la Jersey. Y a-t-il des différences pour ces différences majeures dans le format de la vache au niveau du code?
Oui, vous trouvez dans le code, il y a certaines sections qui sont surlignées avec des différences entre les races, surtout, par exemple, les vaches plus petites, les Jersey, etc. Un exemple de ça, c'est en matière d'espace dans les packs. Donc, elles ont besoin moins d'espace qu'une vache Holstein, par exemple. Donc, ça, c'est détaillé dans le code. Donc, vous pouvez trouver ces informations sur les détails de quel espace est nécessaire pour les petites races, par exemple, dans le code.
Sur les médias sociaux, j'ai vu des commentaires revenir souvent, puis j'aurais aimé t'en parler, Clémence. Il y a vraiment des gens qui sont convaincus que leurs vaches sont attachés sont mieux, ils ont un meilleur bien-être que les vaches en stabulation libre. Là, je voulais savoir, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Comment ils devraient voir la chose? Parce qu'il y en a qui sont très, très fermés à l'idée de la stabulation libre parce qu'entre autres, il y a eu des histoires moins... des histoires d'horreur, on pourrait dire, des étables mal construites ou des problèmes majeurs dans certaines étables. Mais ça peut arriver à attacher aussi. Et je voulais avoir ton... Comment faudrait voir les choses en tant que producteur?
Oui, bonne question. Donc, ça, c'est difficile. Donc, je dirais qu'il y a des plus et des moindres pour tout. En stabulation attachée, bien sûr, les vaches, elles ont accès à un espace tout le temps. Elles ne doivent pas se pousser pour un espace à se coucher. Elles ont de l'alimentation devant elles. Elles ont un abreuvoir à elles. Donc, il y a beaucoup moins de compétition. On peut être sûr que s'il y a une vache qui a besoin d'un peu plus de support, c'est plus facile à la traiter individuellement plutôt qu'en groupe. Il y a des avantages, c'est sûr. De l'autre côté, en stabulation libre, on sait que les vaches, avec l'exercice, elles ont la possibilité de choisir qu'est-ce qu'elles font, d'aller se coucher à côté de la voisine qu'elles préfèrent, d'avoir de l'exercice et pouvoir bien mieux marcher avec les ligaments et les muscles qui sont bien étirés. Donc, il y a des plus et des moins pour tout. Je dirais que un compromis entre les deux, c'est où le code voulait essayer de trouver. Donc, permettre aux vaches en stabulation attachée de garder les avantages, mais aussi de trouver une façon à trouver les avantages dans le système libre, qui est l'exercice, le mouvement, permettre au choix de temps en temps aux vaches. Et c'est là où ils se sont atterris. Et je pense que c'est un bon compromis. C'est pas parfait, pas tout le monde va être content, mais ils ont essayé de balancer les plus et les moins de chaque système, parce que les deux systèmes, ça peut marcher très bien, mais aussi, comme tu as dit, ça peut être un petit peu un désastre. Donc, on essaye de balancer les deux.
D'accord. Et puis, les autres questionnements que j'ai lus là, des producteurs sur les médias sociaux, c'était sur la surpopulation des stabulations libres, entre autres à robots de traite. Les exigences sont rendues, ils ont comme, je sais pas comment dire, pas augmenté, mais ça prend une logette pour une vache en telle année, puis d'ici là, on a un échéancier pour s'y rendre. Il y a beaucoup de monde qui disent, ben voyons, c'est pas si grave, on connaît d'autres pays qui utilisent la surpopulation vraiment beaucoup, nos voisins pour pas les nommer. Est-ce que c'est si grave la surpopulation? Puis dans un système à robots, est-ce que ça aurait dû être plus malléable ou on veut vraiment une logette pour une vache ultimement?
Oui, donc première chose que je vais dire, c'est qu'il faut faire attention à se comparer à d'autres systèmes ou à d'autres pays surtout, parce que chaque pays a un système économique très différent au nôtre. Nous, on est très unique dans notre système et notre but, c'est vraiment souvent la longévité, etc., qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Et donc, un système ou une densité qui marche bien pour eux, les résultats de cette densité pourrait avoir des conséquences assez significatives chez nous au Canada si on doit remplacer des vaches très souvent, etc., etc. Donc, faut faire attention à ça. Mais en tant que densité en système robotisé, il y a beaucoup de questions parce que oui, les vaches n'ont pas tous au salon prêt au même temps, elles ne reviennent pas tous au même temps, elles ne veulent pas tout faire au même temps. Mais en fait, quand on regarde la recherche, et cette exigence a été basée sur la recherche, dans les systèmes libres et aussi dans les systèmes libres robotiques, je veux dire, on a vu que c'est quand même, les vaches sont quand même des animaux de troupeau. Donc, ils veulent quand même faire les mêmes choses à peu près au même temps. Donc, aller au mangeoir au même temps, aller se coucher au même temps, la journée, le soir, la lumière, tout ça a un effet au troupeau entier. Donc, il n'y a pas autant de différence qu'on pense. Si on applique la pensée que elles peuvent aller se faire traire n'importe quand, elles sont sur un horaire différent, c'est pas nécessairement le cas. Donc c'est là où le comité a utilisé la science, les recherches, les recommandations des scientifiques pour déterminer est-ce que on peut faire plus de flexibilité pour les systèmes robotisés ou non. Et ils ont décidé non, ça s'applique à tout le monde, basé sur la recherche.
Dernière question pour toi, Clémence. Ce nouveau guide, lui, il rentre en vigueur vraiment d'ici un an, d'ici 12 mois, mais le cycle de la nouvelle révision va revenir quand? C'est quand est-ce qu'on recommence le cycle de nouvelle révision?
Ouais, bonne question. Donc, un nouveau cadre. Quand on vient de finir, on commence déjà au prochain. Donc, normalement, c'est chaque 10 ans que les codes sont révisés et il y a un petit contrôle au bout de 5 ans pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas bien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté. Mais normalement, chaque 10 ans. En ajoutant à ça, j'ai parlé un petit peu que ça va être potentiellement ajouté à ProAction. Donc, c'est là où le conseil des PLC, les comités techniques de ProAction et du volet bien-être, ils sont en train maintenant à travailler, à déterminer comment appliquer les exigences dans le programme de ProAction. Donc, ça se peut que, c'est sûr que ça va pas être mot pour mot. Il y aura des ajustements. Il y a certaines exigences qui vont couvrir plusieurs exigences du code, par exemple. Mais éventuellement, faudra déterminer comment ajouter ces nouvelles exigences au programme de proaction. Et il y aura beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas, par exemple dans les nouvelles constructions, parce qu'il y aura plein de façons que les gens vont vouloir s'ajuster, donc pour être sûr qu'on valide les fermes de façon égale partout et qu'on a des bons guides pour que les producteurs suivent et soient conformes au programme de proaction. Le premier groupe d'exigences qui vont être ajoutées au programme de proaction basé sur le nouveau code, on ne va pas les voir avant septembre 2025 au plus tôt. Donc, on a quand même du temps et ça va être bien informé aux producteurs. Donc, on va expliquer, démontrer quelles sont les nouvelles exigences, qu'est-ce qui doit être fait pour être sûr que tout le monde comprend comment ils vont être validés quand leur temps arrive pour leur nouvelle validation dès septembre 2025.
Clémence Nash, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous à En deux traites.
Merci à vous, c'était super.
Merci beaucoup, Clémence. On rappelle que le nouveau code de pratique est sur le site nfacc.ca si jamais vous voulez le consulter. C'est déjà tout pour cet épisode d'En deux traites. Sabrina, ta réaction sur ce qu'on entend aujourd'hui, tu te sens-tu prête?
Oui, ben comme suite à un incendie, j'ai dû reconstruire une étable, j'avais ça en tête, donc pour moi, c'est peut-être plus facile que d'autres dans le sens que tout est conforme, mais je pense que les producteurs qui sont à l'affût, qui voient ce qui s'en vient pour le futur, qui ont une belle vision d'avenir de la production, je pense que s'ils ne sont pas déjà prêts, ils avaient déjà prévu améliorer leurs installations.
J'y vais dans le même sens que toi. C'est sûr que de passer au feu, là, c'est pas ce que je souhaite à personne, mais lorsqu'on reconstruit ou qu'on construit, je le remarque justement que, on va résumer ça par le bien-être animal, est très, très présent, autant dans la conception du plan, les idées, puis tout le thinking qui va autour du projet. Pour ma part, il y a des projets d'agrandissement, puis le bien-être animal est toujours dans les discussions, parce qu'au final, c'est ça qui va dicter un peu comment grand, comment haut, comment large, puis de quels matériaux, puis de comment qu'on va faire, autrement dit, le projet. C'est omniprésent.
Ouais, puis tu sais, j'ai visité des étables là, dans les dernières semaines, des jeunes producteurs qui ont démarré là, avec les programmes de relève. Ça fait pas plus que 15 ans qu'ils sont en production. Puis déjà, ils ont été capables de mettre leur bâtiment aux nouvelles normes qui viennent de sortir. Moi, ça m'impressionne. Fait que je sais que pour certains, ça peut être plus difficile, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a assez de conseillers autour de nous, là. Puis d'autres producteurs, c'est possible de trouver des solutions abordables, entre autres, là, pour être à la page du nouveau code.
Non, tu as parfaitement raison. Je pense qu'un pas à la fois, là, puis avec tout le monde qui nous entoure, là, on est capable là, d'aller dans la direction voulue. Puis, pas la direction voulue juste par les consommateurs, mais je crois que la direction, elle est idéale pour les animaux, pour la production, puis pour l'efficience de toute notre industrie. Écoute, je veux quand même prendre quelques secondes pour remercier tout le monde d'avoir été à l'écoute aujourd'hui.
N'hésitez pas à nous envoyer des questions, commentaires, suggestions en passant par notre page Facebook ou via notre compte Twitter.
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ce balado avec vos collègues et amis.
Un gros merci à notre invité Clémence Nash. Merci à notre réalisateur Bruce Sargent et à notre producteur Carl Bélanger.
À bientôt pour un autre épisode d'En deux traites.
Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode d'En deux traites. Je m'appelle Sabrina Caron et je suis en compagnie de mon collègue et ami Jean-François Janel. Salut JF.
Salut Sabrina. Comment ça va?
Ça va bien. C'est la saison des réunions. Et la saison où est-ce qu'on prend le temps de faire tout ce qu'on n'a pas fait dans nos bâtiments ou autour. Donc, puis on prend le temps aussi de déneiger le toit. Fait que ça va très, très bien. C'est toujours intéressant cette saison-là. Puis ce qui est le fun cette année, c'est qu'on revoit les gens en vrai.
Fait que oui, ça, c'est ciel, oui.
Ça, on voit des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Fait que ça amène des discussions intéressantes. Sinon, toi, Jean-François?
Ben, ça va bien, ça. La question de base, ça va bien. J'aime ça que tu parles des bâtiments, qu'on prend le temps de repasser le temps à l'intérieur. Je suis justement sur des projets. Il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur de l'entreprise. On se dit, on veut avoir des meilleurs animaux. On veut toujours donner plus aux animaux. Fait que des fois, on veut... on regarde les quatre murs à l'intérieur qu'on travaille puis on se dit qu'il faut en faire plus, il faut peut-être en construire plus. Fait qu'on a beaucoup de questionnements dans l'entreprise ici, là, mais on pousse vers le haut. Puis je pense qu'on veut allier génétique et bâtiment tranquillement.
Oui, c'est important de prendre le temps de s'asseoir puis tout calculer les options qui s'offrent devant nous. Comme ça, on peut prendre une décision plus éclairée. En tout cas, moi, je procède toujours comme ça. Puis ça évite des « j'aurais dû » ou « j'aurais pas dû ». Puis ça... Il faut s'enligner avec notre vision des choses, puis ça aide à suivre notre vision. Aujourd'hui, Jean-François, on va parler d'un sujet qui t'intéresse particulièrement. On va parler d'insémination artificielle.
C'est vrai que c'est justement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le nerf de la guerre dans la production laitière, c'est que ça prend une vache qui veille, ça prend une vache qui a un veau pour pouvoir déclencher la lactation. Fait que c'est clair que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Puis, le fil des choses m'a emmené tranquillement à pouvoir postuler sur un poste qui m'a permis d'accéder au siège, sur un siège du conseil d'administration du Centre d'insémination artificielle du Québec, le CIAC, en tant qu'administrateur de la relève. Donc, je suis grandement intéressé justement par le sujet d'aujourd'hui qui est le CIAC en question.
Ça va être un épisode éducatif, j'ai l'impression. On poursuit la discussion dans un instant avec notre invitée, Joanne Chartier, directrice générale du CIAC.